Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Maroc a accueilli le deuxième forum mondial des droits de l'homme, courant novembre, sujet délicat qui permet néanmoins aux intellectuels de la région de s'interroger sur la situation politique générale dans le monde arabo-musulman, plus précisément sur le poids grandissant de la religion, y compris dans des pays jusque-là acquis à une pratique plus séculière de la politique. Le Veau d'Or, une comédie qui se déroule au fin fond de l'Atlas marocain. Samy, 17 ans, vient de France. Parce qu'il a fait des bêtises, son père lui a confisqué ses papiers et laissé dans ce village où les tentations sont rares. Aventure burlesque garantie avec son cousin local, dépassé par les événements. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
L'évolution des mœurs était au centre des discussions à Marrakech, voici quelques jours, à l'occasion du deuxième Forum mondial des droits de l'homme. Une évolution souvent sous haute surveillance, quand elle n'est pas parfois rétrograde. Omar Benjelloun est avocat au barreau de Rabat et de Marseille. Il est le neveu de l'opposant de gauche Omar Benjelloun, assassiné par la Chabiba Ismailia, mouvement islamiste clandestin à l'époque, le 18 décembre 1975. Nous l'avons rencontré dans la cité phocéenne il y a quelques jours, à l'occasion d'un séminaire organisé par l'association Euromed IHDN. Pour lui, au-delà des droits de l'homme, se pose la question de la place de la religion dans la vie politique, alors même que cette religion domine dans toute la région. Omar Benjelloun.
Justement, la tendance de facilité, c'est qu'il y a déjà une société plus ou moins traditionnaliste sur laquelle s'est greffé l'islamisme politique. Maintenant, est-ce que cet islamisme politique va avoir la tendance d'aller vers l'équivalent de ce qu'on peut appeler la démocratie chrétienne en Europe, donc une espèce de démocratie musulmane typique à cet environnement, ou bien va-t-elle aller vers la tendance wahhabite qui nous vient éventuellement du début du XXe siècle par rapport aux alternatives liées à l'Empire ottoman ou bien par rapport aux alternatives liées à la résistance à l'Union soviétique, le tout bien évidemment soutenu par les États-Unis d'Amérique et financé et exporté par l'Arabie saoudite. Donc le dilemme est là.
L'islam politique n'est pas vraiment nouveau, les frères musulmans existent quand même depuis près d'un siècle, enfin 80 ans en tout cas. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il n'émerge que maintenant ?
L'islam politique est une cristallisation d'une réflexion et d'une action politique autour d'un existant, notamment par rapport à la résistance à l'Empire ottoman, qui ne servait pas forcément les intérêts de l'Europe du début du XXe siècle. Et par la suite, c'était encore une fois une cristallisation de la réflexion et de l'action politique par rapport à un existant musulman, par rapport à l'Union soviétique. Maintenant, lorsque ces enjeux d'adversité qui ont fait que plus ou moins l'Occident a encouragé ces mouvements islamistes n'existent plus, bien évidemment que les produits de cet Occident s'est retourné contre le géniteur, on va dire, politique et propagandiste de ces mouvements dans cette région du monde. Et donc, par rapport à l'opinion publique, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau parce que, bien évidemment, c'est un phénomène nouveau qui est vécu comme une menace, alors qu'avant, c'était bien évidemment un allié. On peut prendre l'exemple le plus caricatural ou sommaire, c'est Oussama Ben Laden, qui, bien évidemment, était un moudjahid en Afghanistan, financé par la CIA, contre, bien évidemment, la présence soviétique dans les montagnes afghanes.
Alors ça, c'est l'exemple extrême, je dirais. Revenons aux partis islamistes qui émergent. Est-ce qu'ils émergent aujourd'hui parce qu'ils répondent réellement à des besoins de la population ?
Si on raisonne d'un point de vue légitimiste, il est incontestable que les partis islamistes participant au processus électoral et au processus démocratique sont tout à fait légitimes aux yeux de la population. Et on ne peut pas, en respectant les canons de la démocratie, excommunier ces mouvements ou bien dire qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Au contraire, il faut, contrairement à ce qu'a fait Sissi en Égypte, justement, il faudrait, au contraire, leur donner la chance d'exister et puis de prouver, lorsqu'on est en opposition avec eux, de faire démontrer que le ritualisme, le folklorisme, le mysticisme, le mode de vie ne peut pas suffire à un programme politique, ne peut pas réduire les fractures territoriales, sociales, économiques, ne peut pas répondre à des milliers d'interrogations que se posent les citoyens, les populations sur leur présent et leur avenir. Donc la démocratie, justement, est un outil, est une mesure pour clarifier les positionnements politiques, pour clarifier la viabilité politique des mouvements, la faisabilité des projets de société, et non pas rester dans le slogan, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le slogan plaît, parce qu'il surfe sur un existant conservateur qui est le refuge des sociétés de l'arc sud de la Méditerranée par rapport à une situation de domination, à une situation d'humiliation, grosso modo à une situation de sous-développement.
Puis il faut dire aussi que ces partis islamistes qui émergent aujourd'hui, enfin l'Occident a l'impression qu'ils émergent, étaient quand même très organisés et souvent étaient très bien implantés dans les sociétés.
Bien évidemment, je reviens encore une fois sur l'idée des soutiens apportés par certains pouvoirs à ces mouvements. Dans les années 60-70, par exemple au Maroc, au temps où le pouvoir en place combattait ce qu'il appelait la menace rouge, se permettait d'arrêter ou de réprimer les cours de philosophie, les cours de sociologie dans les universités, et au contraire encourager les filières de la charia, les filières d'éducation islamique, de transformer les programmes scolaires et d'éducation en des programmes plus ou moins nationalistes où il y a un dosage habile entre la modernité et bien évidemment l'héritage musulman, en de vrais programmes islamisants. Je cite le programme de l'éducation nationale au Maroc jusqu'à il y a quelques années contenait l'un des plus grands théoriciens de l'islamisme qui est Ibn Taymiyyah, ce qui est quelque part très grave, et en même temps toute l'infrastructure culturelle qui a permis pendant des décennies aux islamistes de se réunir 5 fois par jour et puis avoir un congrès une fois par semaine qui est le vendredi vers midi. Les mêmes moyens n'ont pas été mis à la disposition, bien évidemment, de la gauche progressiste, des libéraux, etc., pour pouvoir ramener la société vers une ligne beaucoup plus nationaliste, indépendante du prisme religieux. Et peut-être c'est aussi l'erreur des intellectuels qui, au lieu de relever le défi d'apporter une alternative intellectuelle et un discours alternatif à l'existant religieux, ont tenté de faire de la tactique politique avec les pouvoirs en place et donc surfer sur le conservatisme, alors que le conservatisme et les pouvoirs en place avaient déjà établi une alliance contre la menace rouge qui était existante, et tout ce qui était indépendant, libéral, progressiste, nationaliste était apparenté au gré des inquiétudes, était apparenté à cette menace rouge et donc était excommunié par rapport à la tendance conservatrice. Les intellectuels donc sont responsables de cette situation, de ce manque de courage à un certain moment. Pas tous, il y en a eu qui ont quand même relevé le défi d'aller en contre-courant de cette réalité conservatrice, mais la tendance, le mouvement intellectuel qui était très riche au début des indépendances a préféré mêler tradition à modernité, mêler les Lumières ou même le marxisme à une espèce de réalité conservatrice et religieuse dans nos sociétés.
L'avocat et intellectuel marocain Omar Benjelloun.
Allez, avance, merde!
C'est au moins tu parles pas en arabe avec les gens. Parle au moins en berbère avec les bêtes, toi.
Cinéma avec, vous l'entendez, Un Veau, l'œuvre d'or, film marocain d'Hassan Lekzouli. Bonjour Sébastien Gédor.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et ce film, sorti mercredi dans les salles françaises, oscille entre comédie et western.
Nous sommes à la fin des années 90 et Sami, un jeune franco-marocain, est renvoyé au pays par son père parce qu'il a fait quelques bêtises. Au Maroc, il va retrouver son cousin Azdad qui gagne sa vie en transportant des bœufs dans sa bétaillère. Mais un jour, Sami va avoir la très mauvaise idée de voler un animal superbe du domaine royal. Un veau royal donc.
Tu sais à qui ça appartient tout ça là? Au roi du Maroc. Et t'es au Maroc ici.
Et alors? Tu vois quelqu'un toi? Moi je vois personne hein.
Si toi tu le vois pas, les mercenaires de nuit te voient.
Arrête tes conneries, on n'est pas au Texas ici, les voleurs de bétail on les pend pas.
Oui t'as raison, les gens comme nous on les pend pas. On les enterre vivants.
En toile de fond du Veau d'Or, donc, Eric, le Marzen, cette autorité quasi divine dont jouit le roi du Maroc avec ses services spéciaux, représentés ici par deux policiers pas très doués. Nader Boussendel incarne Azdad, le cousin marocain, et pour lui, c'était important qu'un film aborde enfin cette question du Marzen.
C'est quelque chose qui a toujours existé, en fait, le Marzen. Donc, on finit par s'y habituer et de vivre avec. Et donc, on rentre effectivement dans des codes qui peuvent paraître d'un œil occidental très très lourd, mais qui, dans la culture marocaine, voilà, ça fait partie des conditions de vie, des conditions un petit peu d'autorité qui sont là et qu'il faut qu'on est obligé de passer par là, quoi. Le personnage, par exemple, d'Azdad est complètement tiraillé entre cette autorité qui rejette et en même temps cette perte du roi qui se sent abandonné, orphelin presque. Je pense que, voilà, c'est peut-être une brèche qui s'ouvre sur des sujets comme ça qui étaient un petit peu tabous et qui aujourd'hui voient le jour, quoi.
De deux choses l'une. Ou on se fait trucider par les contrebandiers, et ils nous volent le bœuf, ou on se fait dénoncer et on finit dans un bagne 4 étoiles. Profite de tes derniers instants d'homme libre.
Sébastien Le Veau d'Or, c'est aussi une galerie de portraits plutôt savoureux.
Oui, avec ces policiers, hein, je le disais, qui ressemblent à des pieds nickelés, un mafieux sans scrupules, on a aussi un imam superstitieux. Mais surtout, il y a la confrontation entre Sami, qui ne pense qu'à rentrer en France, et Azdad, donc ce diplômé chômeur, qui au premier abord semble attaché à sa terre et au bétail qu'il convoie. Un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, Azdad, pour l'acteur Nader Boussendel.
Je pense que dans le fond, il y a un vrai fantasme peut-être de départ, quelque part, qu'il a envie de réaliser, mais qui, au fond, préfère le garder au stade du fantasme. Il vit mieux avec le fantasme qu'avec la réalité d'un jour pouvoir aller là-bas. C'est quelque chose de très courant aussi chez les Marocains qui ont pu faire des études et qui ont des rêves de départ, mais qui finalement ne le font pas, plus par lâcheté qu'autre chose d'ailleurs. Je pense qu'il a une fascination pour la France, pour l'étranger, pour les lettres, qui l'ont dû le transporter dans pas mal d'univers, mais au fond... C'est pas pour lui, quoi. Et il s'en rend compte d'autant plus quand il est avec ce petit cousin qui lui a tout raté là-bas.
Le tournage du Veau d'Or a été épique, Eric, entre les caprices du personnage principal, le veau, et les caprices de la gendarmerie royale qui a causé quelques tracasseries à l'équipe. La télévision marocaine a refusé de coproduire le film et de prêter des images d'archives, signe qu'une comédie policière au Maroc peut être assez dérangeante.
Oui, le Veau d'Or du cinéaste marocain Hassan Lekzouli, une comédie à voir avec gourmandise. Merci Sébastien Gédor. Phare de la scène actuelle du Maghreb avec son Shaabi Groove, Mazagan est un mélange explosif de musique tribale et de son urbain, une fusion qui réconcilie la genèse de la région avec le folk marocain. Exemple avec ce morceau, Yad la Baisse.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, la presse arabe est partagée entre colère et satisfaction. Colère pour la mort d'un ministre palestinien et satisfaction pour une nouvelle reconnaissance de l'État palestinien.
Et pour la presse arabe, il ne fait pas de doute, Ziad Abu Ayn, ministre de la lutte contre le mur de séparation et de la colonisation, a été tué par les Israéliens. Alors, selon l'autopsie palestinienne, Abu Ayn est mort des conséquences de coups reçus au visage et de gaz lacrymogène inhalés et de l'absence de soins médicaux immédiats. Abu Ayn participait à une manifestation contre la confiscation de terres réprimée par l'armée israélienne. Les journaux arabes saluent par contre la reconnaissance de l'État palestinien par le Parlement irlandais, le quatrième à reconnaître l'État palestinien après les parlements anglais, espagnol et français. Pour la presse arabe, il s'agit d'un processus irrémédiable qui aboutira à une reconnaissance de la Palestine par les gouvernements européens, comme l'a déjà fait la Suède.
Michel Paul, cette mort du ministre palestinien lors d'une manifestation anti-israélienne est également à la une.
Oui, Yedioth Ahronoth résume la situation, la guerre des versions après l'autopsie. Alors pour les Israéliens, il est clair que Ziad Abu Reyn a succombé à un arrêt cardiaque. Pour les Palestiniens, il est mort d'un coup porté à sa poitrine. Nombreux sont les commentateurs, Eric, qui estiment que la mort du ministre palestinien pourrait enflammer les esprits et donner le coup d'envoi à la troisième intifada. D'autres soulignent le fait que les responsables de l'autorité palestinienne et à leur tête le président Mahmoud Abbas font tout pour tenter de calmer le jeu. Selon le quotidien Retz, d'importantes pressions sont exercées sur les Palestiniens pour qu'ils optent pour une réaction modérée. Un chroniqueur le souligne, la fin de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne ne pourrait que profiter au Hamas en fin de compte. Et en tout cas, côté israélien, comme le montrent les médias, on renforce le dispositif de sécurité pour faire face à toute éventualité.
Alex Van Doutchanty, la presse arabe s'intéresse aux suites du sommet des pays du Golfe au Qatar.
Oui, un sommet qui a scellé le retour du Qatar, considéré comme l'enfant prodigue du Conseil de coopération du Golfe. Alors un Qatar qui, selon la presse, est engagé à mettre un terme aux campagnes médiatiques hostile à ses voisins, mais aussi à l'Égypte du président Abdel Fattah el-Sissi. Les journaux arabes indiquent que les 6 pays du Conseil du Golfe vont tenir une réunion de coordination pour faire face aux ingérences extérieures de puissances régionales. L'Iran et, fait nouveau, la Turquie d'Erdogan, qui, dans un récent discours, a indiqué, selon la presse, que les successeurs des Ottomans avaient le droit d'ingérence en Irak, en Syrie, en Palestine et en Égypte.
Et puis, Daesh de l'intérieur, c'est un reportage sur l'organisation État islamique à lire dans le journal Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, un reportage qui est basé sur les confessions d'un haut dirigeant de l'organisation État islamique qui a fait ses premières armes avec Abu Bakr el-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'État islamique. Alors c'est dans la prison américaine de Boqa, près de Bassora, au sud de l'Irak, que le repenti a fait connaissance avec celui qui à l'époque s'appelait encore Ibrahim bin Awad al-Badri. Tous deux avaient été pris par les Américains pour activités hostiles en février 2004. La prison a été l'occasion de penser et organiser ce qui allait finir par être l'État islamique. Le repenti affirme que Abu Bakr el-Baghdadi s'était rapidement imposé aux Américains comme un médiateur des Américains qui l'ont tellement apprécié qu'il a été un des premiers relâchés en décembre 2004.
Michel Paul, la campagne électorale bat son plein en Israël.
Objectif 17 mars, la date prévue pour les législatives israéliennes. La course est ouverte, titre un quotidien. On retire les gants, souligne un autre journal, une référence aux propos peu amènes proférés par les uns sur les autres, les alliés d'hier qui siégeaient au sein du même gouvernement et qui sont devenus de farouches adversaires. Dans les journaux des citations, le Premier ministre Netanyahou accuse la presse de faire les jeux de la gauche avec des slogans tels que « Tout sauf Bibi », c'est le surnom, vous le savez, du chef du gouvernement israélien. Alors les grands titres de ces derniers jours, c'est bien sûr l'alliance entre les partis de gauche et du centre et aussi la tentative d'alliance entre le Likoud de Netanyahou et le parti du foyer juif.
Et encore et toujours, pourrait-on dire, des sondages, Michel.
Bien sûr, les sondages sont omniprésents. Ce sera d'ailleurs le cas jusqu'à une semaine avant le suffrage. Eric, si on veut résumer la situation, eh bien, c'est que l'alliance entre les travaillistes et le mouvement de Mme Tzipi Livni font de cette liste le numéro un. Mais attention, cela ne signifie pas que ce nouveau parti puisse former une coalition. Au contraire même, c'est le bloc des partis nationalistes qui seul sera à même de mettre sur pied un gouvernement viable, selon, bien sûr, les sondages de cette fin de semaine. Mais tout peut encore changer.
Et pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour, quelle est-elle?
C'est la photo publiée dans tous les quotidiens des trois auteurs de l'attaque contre le lycée bilingue de Jérusalem, trois jeunes habitants des alentours de Jérusalem qui ont avoué être responsables des actes de vandalisme contre l'établissement pour lutter, à leur dire, contre l'assimilation.
Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Géopolitique, le débat.